Et c'est la 44e édition de Litteramour avec Dory Manor, poète, romancier, essayiste, traducteur et éditeur. Sigrid Brinkmann vous souhaite la bienvenue. Je me réjouis que vous suivez la conversation que nous enregistrons dans un café à Kreuzberg, quartier qui nous est cher tous les deux. Des critiques littéraires et des professeurs de renom apprécient votre poésie pour la musicalité et son rythme, sa forme accomplie, sa profondeur philosophique et psychologique. Moi, je ne peux pas la lire en hébreu, pas plus que votre prose. Ce que je peux lire, c'est un livre qui vient de paraître au mois de mars chez Grasset. C'est votre premier roman écrit en français. Le gorille, c'est le titre. Donc ce mot gorille suffit pour que moi, je vois aussitôt se dresser un grand primate qui inspire vraiment la crainte aussi bien que le respect. La deuxième image que les titres évoquent est celle d'un garde du corps musclé dont la tâche est de sauvegarder la vie de ceux qu'il protège. Et votre père a été un tel gorille, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé au service de sécurité intérieure israélien. Il suivait Moshe Dayan et Golda Meir et bien d'autres personnes, je pense. Politique. Vous aviez, Dory Manor, dédié votre roman au souvenir exilé de votre père qui avait 2 ans lorsqu'il a quitté Berlin en 1932 avec ses parents pour s'installer en Palestine. Est-ce que un des propos était, ou est, de divulguer enfin l'histoire enfouie, le souvenir exilé de votre père et quelques membres de la famille?
Oui, absolument. Là, c'était toute l'idée, je pense. C'est-à-dire la divulgation, la révélation de secrets de mon père, de ma famille, mais aussi de la société d'où je viens et de ma propre vie. Là, j'irais jusqu'à dire que c'est la raison d'être de mon écriture, en fait, tout ce que je fais. Enfin, j'ai grandi dans une famille qui était spécialiste en matière de secrets. Mes deux parents travaillaient pour les services secrets en Israël et ils ont importé leur habitude du secret à leur vie familiale, à notre vie familiale. Et dès un âge très jeune, j'étais habitué moi aussi, plus qu'habitué, j'ai dépendé en quelque sorte du secret. Ton enfant, c'est tout ce que je savais. J'étais entouré de secrets de famille, de secrets professionnels, de secrets d'État, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc du moment où je me suis mis à écrire ma propre littérature, d'abord ma poésie en hébreu, ensuite ma prose en hébreu et maintenant ma prose en français, dès le moment où je l'ai commencé, je crois que mon objectif, conscient ou pas, a été et toujours le dévoilement de secrets. Tout ce que j'ai pu écrire de ma vie n'est qu'une longue suite de révélations, de reniements du secret. Dévoiler un secret, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la provocation, c'est-à-dire Évidemment, je ne révélerai jamais des secrets de mes amis ou de... Enfin, bien sûr que non. C'est tout simplement ma manière de pouvoir dire des choses qui sont de l'ordre du non-dit dans mon écriture. Et je pense que c'est un premier pas presque obligé de toute écriture romanesque.
Le gorille, c'est un roman autofictionnel. Il ne s'agit pas de vérité biographique, mais d'une élaboration littéraire, de processus intime et d'un vécu. Pourtant, le narrateur, à la première personne, il vous ressemble.
Eh oui, il me ressemble, beaucoup même. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai tout de même modifiés, notamment les noms, les lieux. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, lorsque je parle du village où ma mère a grandi, où mon père est enterré, etc., eh bien, j'ai changé de village. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres détails, mais pour tout ce qui concerne ma propre vie, enfin, j'ai quasiment rien changé. Il y a des histoires qui sont dramatiques, des histoires qui sont parfois surprenantes, qui sont tout à fait vraies. Bien au contraire, il y a des histoires vraies que je n'ai pas inclus dans le roman, tout simplement parce qu'ils auraient eu l'air pas possible. Parce que la vérité, comme on sait, parfois c'est bien plus romanesque que n'importe quel roman, et je voulais pas que ce soit trop mélodramatique. Alors j'ai un peu éliminé de la vérité là-dedans. Mais oui, c'est bien mon histoire, et lorsque je parle de mon adolescence, par exemple, qui était, enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que mon adolescence était mouvementée. Dans le roman, tout ça est vrai, hein. Tout ça est vrai, y compris des points qui sont vraiment difficiles à croire parfois. Enfin, personne ne me croit, hein, personne ne me croit, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Le narrateur et sa relation avec le père sont au centre du roman. Il aborde des thèmes comme la construction d'une identité israélienne, la masculinité dans sa forme toxique et l'homosexualité comme une contreposition, je veux dire. Écrire dans une langue étrangère, c'est un grand pas. Vous avez tout à fait raison à décrire qu'il y a une aisance à parler de soi et de révéler la vie telle que vous la vivez. Mais écrire en français, je veux dire, ça paraît quand même comme un acte émancipateur.
Absolument, même plus qu'un acte de libération, c'est un acte qui m'a tout simplement permis d'écrire tout ça. J'ai essayé d'abord d'écrire ce livre en hébreu, ce qui pour moi était bien plus naturel. Enfin, j'avais déjà publié un certain nombre de livres en hébreu. Pour moi, écrire en français, je n'y pensais pas. Là, je pense toujours à la phrase de Paul Celan, Paul Celan, qui disait qu'un poète qui écrit dans une langue qui n'est pas la sienne, qui n'est pas sa première langue, c'est un menteur. Alors oui, bon, il exagère un peu peut-être selon dans ce cas, mais je vois de quoi il voulait parler. C'était un peu mon approche par rapport à ça avant de me mettre à écrire ce roman. Et donc j'ai essayé de l'écrire dans ma langue maternelle pour ne pas mentir, et je me rendais compte que justement parce que je l'écrivais ou que je tentais de l'écrire dans ma langue, je m'auto-censurais, je m'autorisais pas à dire des choses qu'il fallait dire. Et à partir d'un moment donné, je me suis dit, ok, je vais faire une expérimentation. Je vais essayer d'écrire ça en français, tout simplement parce que mon père ne comprenait pas le français, quoi. C'est pas un seul mot de français. Et donc, mon père, il était mort 2 mois après mon installation à Berlin, donc sa ville natale à lui. Mais sa mort ne suffisait pas. Hein. Sa mort ne suffisait pas. Il m'a fallu trouver une autre barrière pour qu'il ne puisse pas regarder derrière mon épaule et voir ce que j'étais en train de dire de lui. Et donc, le deuxième saut après sa mort était celui de la langue.
Le père Gori, c'était un homme viril qui a sans cesse eu des relations extra-conjugales et que sa femme acceptait, que votre mère acceptait. Le fils déteste la complaisance virile du père, mais la complicité de la mère est aussi quelque chose de très grave. Donc, elle souffrait d'être reléguée au second plan, mais elle ne s'y est pas opposée. Donc, par rapport aux autres et la famille, on faisait comme si la maîtresse ou si les maîtresses n'existaient pas. Ça fonctionnait. Le couple fonctionnait vis-à-vis autrui. Isoler les enfants, pourtant, du reste de la famille. Pour moi, c'est une forme de violence et d'abus, de maltraitance grave qui vous a fait du mal, je suppose. Enfin, on grandit avec deux parents qui sont souvent absents et on est privé de la famille. Et déjà, on ne sait pas beaucoup de la famille, enfin, du père, du moins.
Oui, c'est une sorte de maltraitance. Le rapport entre mes parents était bizarre. Enfin, c'est-à-dire, d'abord, mon père a eu bon, pas mal de maîtresses, il les appelait mes amis, et ma mère l'acceptait. Les amies de mon père étaient toutes, au moins au départ, étaient toutes jeunes. Elles venaient souvent chez nous, elles passaient de longues soirées à la maison quand j'étais petit. Elle cuisinait avec ma mère, elle dînait avec nous. Pour moi, c'était très naturel, j'étais un enfant. Donc c'est ce que je connaissais. Et là, c'était, a posteriori, je regarde ça comme une sorte de, comment dirais-je, une sorte de polyamour qui disait pas son nom avant la lettre. Ces années-là, disons, les années de ma tendre enfance et des différentes histoires de mon père avec ces jeunes femmes, là, ça me gêne moins. C'est-à-dire, je porte pas de jugement là-dessus. En français, d'accord, ils voulaient vivre comme ça. Après tout, c'était leur droit. C'était pas ça le problème. Le problème est venu après. Lorsque mon père tombe amoureux d'une de ses amies, un peu moins jeune que les autres, un peu plus divorcée que les autres, qui avait deux enfants à elle. Et cette femme, qui s'appelle dans le livre Valentina, elle était vraiment le grand amour de mon père. Et ma mère ne pouvait plus le supporter parce qu'elle sentait bien que là, bah, c'était une vraie menace. C'était plus, enfin, une affaire, enfin, d'un homme qui cherchait, enfin, des aventures. Elle a accepté, elle a justement le fait de l'accepter et de faire de moi son confident, son unique confident, en fait, dans sa détresse, et sa détresse était profonde, ça, c'est quelque chose qui était violent. A priori, c'est mon père qui était enfin, le méchant dans cette histoire, mais c'est vrai que ma mère a eu sa part. C'était un couple infernal, mes deux parents. À chaque fois que quelqu'un de la famille, des amis, de l'entourage, a eu vent de cette histoire de mon père avec Valentina, eh bien, mes parents, étant le couple infernal qu'ils étaient, ils l'exécutaient, hein, ils l'exécutaient. Ils étaient ces gens-là qui avaient eu le tort de tomber dans la rue sur mon père et sa copine, eh bien, ils étaient déclarés morts, tout simplement, unilatéralement. Et donc, c'est comme ça qu'en 2, 3 ans, j'ai perdu tous mes cousins, tous mes oncles, toutes mes tantes, tout, oui, etc. Et oui, j'étais vraiment isolé, hein, j'étais vraiment isolé. Et pourtant, je pense que le recul, qu'ils ont bien eu raison de ne pas divorcer. C'est moi qui avais tort. C'est eux qui avaient raison parce que, bon, c'était un épisode qui, pour moi, mal tourné, très mal tourné même, mais pour eux, ça a été un épisode. Et au bout de compte, mon père, ma mère, leur vieillesse, c'était un couple. Oui, oui, oui.
Vous décrivez Dorry Manor comment le père va soigner sa femme. Il y a une douceur qui lui est propre et qu'on ne lui connaissait pas, forcément. Il se comportait comme un homme responsable.
Plus que
Et,
ça.
oui.
Plus que ça. Enfin, je ne sais pas si moi, j'aurais pu faire comme lui, enfin, être à ce point doux et tendre et aimant avec une personne, ma mère, qui est atteinte d'Alzheimer et qui, oui, enfin, mais c'était pas que ça. C'était pas que ça. Enfin, pendant les 30 dernières années de la vie de mon père, qui est mort à l'âge de 89 ans, il a changé. Enfin, c'était une vraie métamorphose. Il est devenu quelqu'un de très différent et de beaucoup plus doux et de beaucoup plus aimant. Et c'est grâce à ça que moi, je pouvais devenir de nouveau intime avec lui, devenir de nouveau son fils. Et lui, il pouvait devenir de nouveau mon père dans les faits. Parce que si vous m'aviez posé la question quand j'avais 20 ans, pour savoir ce que je pensais de mon père, alors je vous aurais dit, eh bien, je le déteste, je le hais, je ne veux qu'une chose, qu'il meure. Et là, il a changé, c'était plus la même personne. C'était une vraie métamorphose, une métamorphose ovidienne, dans le cas de mon père. Enfin, le moment qui m'a le plus marqué pour me rendre compte de la mesure de ce changement, c'était au moment de ce qu'on appelle la Shiva.
donc la semaine de deuil sur un mort dans le judaïsme. Et donc la semaine après le décès de mon père en 2019 à Tel Aviv, là, il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont venues pendant ces 7 jours. Et il y avait une différence incroyable entre ceux qui le connaissaient avant et ceux qui le connaissaient après. Les gens qui le connaissaient avant sa soixantaine, ils étaient tous très sévères envers lui. Enfin, et là, je dis les choses d'une manière atténuée. Ils étaient vraiment fâchés, voire haineux, alors que les autres, pas du tout. Ils ne comprenaient absolument pas ce que les autres voulaient. Tout le monde l'adorait. Alors oui, c'est une vraie rupture. Et pour moi, comme c'était dans ce sens et pas dans l'autre, c'est-à-dire un gorille qui devient un homme et pas un homme qui devient un gorille, eh bien pour moi, c'est un aspect très optimiste, très humain, très humain.
Il y a deux moments clés. Lors d'une sortie à la plage, le père présente au fils, sans le prévenir, sa maîtresse et leurs deux enfants. C'est cette femme appelée Valentina, donc c'est sérieux. Et cette rencontre, il l'avait préparée et c'est perfide. Le narrateur veut s'éclipser. Il s'enfuit dans le sable, il murmure « je suis une mule, je suis une mule ». Pour moi, c'était une des scènes qui m'a ébranlée, le plus touchée. C'est-à-dire cette détresse d'un jeune qui est contrainte à être témoin et qui n'en veut pas. Et plus dramatique encore, c'est la scène de l'enlèvement nocturne où le frère aîné de 15 ans prend les choses en main et fait interner le jeune narrateur en hôpital psychiatrique. Cette contrainte, elle a complètement bouleversé votre vie.
C'est sans doute deux moments clés de mon adolescence et durement aussi. La première que vous venez de décrire, oui, ça se passe sur une plage à quelques 10 kilomètres au nord de Tel Aviv. C'était une surprise, c'est-à-dire déjà les circonstances étaient difficiles parce que c'était à un moment où ma mère avait subi une opération, elle était encore sous anesthésie et mon père m'a proposé d'aller à la plage alors que j'avais absolument pas envie de ça. Mais bon, j'ai fini par accepter, j'avais pas trop le choix. Et là, sur la plage, j'ai découvert qu'il avait tout organisé d'avance. Et donc, c'était ma première rencontre avec sa copine, avec Valentina, et ses deux enfants. Et là, ce qui a rendu la chose encore plus, disons, complexe, c'est que, comme j'ai vu son fils pour la première fois, le fils qui devait avoir 16 ans à l'époque, moi, j'en avais 14. Enfin, il était beau, il était très beau et je l'ai vu sortir de l'eau et j'étais ébloui par sa beauté. Et là, je pense que c'est dans ces circonstances dramatiques, presque tragiques, que je me suis rendu compte de mon attirance pour les garçons de manière générale. C'est-à-dire, oui, j'en étais conscient avant, mais je ne savais pas le nommer. Et je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et de toute façon, ça ne se concrétisait pas.
J'ai beaucoup aimé dans vous décrivez sa sortir de l'eau. Vous scannez gentiment le corps et puis il y a juste ces quelques mots. Ça y est, avec un point d'exclamation. Et on change pas de sujet, mais ça continue. Et ça, on est très à côté de ce jeune qui est vraiment dans la détresse, mais heureusement capable de voir, de concevoir la beauté et de se sentir. Et de sentir qu'il est attiré. Ça aussi, c'est une sortie de cette vie dans le clos. Revenons à l'écriture, parce que vous avez opté et cherché à écrire en français, vous l'avez fait. Et le français, quand vous étiez jeune, c'était une langue secrète. Et vous avez dit qu'écrire, devenir poète, c'était plus qu'une vocation littéraire, c'était surtout s'assurer de ne plus jamais être enlevé la nuit et de disparaître dans un hôpital psychiatrique.
Oui, c'était ma manière d'être déjà tout ce que mes parents n'étaient pas. Enfin, mes parents n'étaient pas ni intellectuels ni, ni grands lecteurs, surtout pas poètes, tout le contraire. Et donc, être poète, c'était agir différemment d'eux, de manière radicale. Mais il y avait aussi ce côté-là, c'était que publier dans un supplément littéraire, puis dans des revues, puis dans des livres, etc., ma propre poésie, leur propre secret dévoilé, c'était une manière de me protéger, de m'assurer que je ne serais plus kidnappé dans un hôpital psychiatrique, alors que pendant des années, j'avais cette peur, parce que c'était sous condition. C'était une liberté conditionnée et je ne savais pas si je risquais ou non d'être ramené dans cet hôpital. Alors oui, je publiais aussi pour être libre dans tous les sens du terme.
Au plus tard, depuis votre premier long départ d'Israël, c'était quand vous êtes parti à Paris, vous avez pu vivre votre homosexualité ouvertement. Au cours des recherches généalogiques, vous êtes tombé sur les traces d'un parent, le grand-oncle de votre père, qui avait quitté l'Allemagne à temps et qui vivait à Jaffa. Il était homosexuel. Son ami arabe n'a pas résisté à la pression de la famille. Il s'est marié et l'oncle s'est donné la mort. Sans cet oncle, il aurait peut-être été trop tard pour votre père et ses parents de quitter l'Allemagne. Et donc, c'était crucial, cette décision, et l'oncle il était extrêmement important à les avertir et les faire venir en Palestine. Ils lui doivent sa vie, et moi je lis ce roman aussi comme un grand hommage à cet oncle Raphaël.
Oui, absolument. Cet oncle Raphaël, l'oncle de mon père, qui est décédé en 1945, c'était un de nombreux suicidés dans la famille de mon père, mais sans doute le plus important, justement, dans le sens que vous décrivez, ou au moins dans le contexte du livre, parce que oui, il était homo, il vit en couple avec un arabe, un palestinien de Jaffa, il avait quitté l'Allemagne à temps, dans les années 20 encore, et c'est un peu grâce à lui que mes grands-parents ont décidé par la suite de quitter, donc en 32, avant même la montée au pouvoir des nazis. Et oui, c'est parfois les histoires personnelles et l'histoire en grand H, c'est quelque chose qui non seulement est lié, mais qui prend de court. Parce que quand même, un oncle, un grand-oncle homo qui fait sortir sa famille d'Allemagne à temps pour, par la suite, permettre à un futur petit-fils, lui aussi homo, d'être né là-bas en Israël et de finir par retourner vivre en Allemagne, là, c'est quand même un tour étonnant de l'histoire, à la fois personnelle, l'histoire, disons, des Juifs, l'histoire d'Israël. Et lorsque j'ai pensé à ça, j'ai trouvé en effet qu'il était important de parler dans ce roman de cet oncle que tout le monde avait oublié. Et oui, il fallait lui donner la voix, fallait surtout le commémorer.
Le Gorille, votre roman, pour moi, est également un grand témoignage important pour votre enfant qui est né en 2025 et grandit dans la ville de son grand-père et dans la ville où vous avez choisi de vous installer en permanence. Ce livre, c'est un grand cadeau pour un enfant qui va apprendre d'où il vient. Est-ce que l'écriture de ce roman a changé quelque chose pour vous? Ça, c'est ma question finale quand même. C'est un long processus. Qu'est-ce qui a changé?
Oui, si avant de me mettre à écrire ce livre, ça m'a paru la science-fiction que je puisse un jour rédiger un roman français, alors maintenant, ça l'est moins. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est concrétisé. Et j'étais vraiment très surpris et surtout très touché par les très nombreuses réactions, les critiques, les articles, les interviews, etc. Et là, ça m'a donné envie. Et du coup, je me dis que j'aimerais continuer. Avec toute la difficulté que ça représente pour moi. Parce que bien sûr, il m'est beaucoup plus simple d'écrire un hébreu. L'hébreu est ma langue. Un hébreu, je ne dois pas lutter contre les mots. Mais là, je me suis rendu compte, avec la rédaction de ce roman, que ce n'était pas seulement un avantage. C'est-à-dire, si un hébreu, pour chaque mot que je choisis, j'aurais pu, disons, en choisir une vingtaine d'autres, alors en français, j'aurais pu en choisir trois autres. Et ce qui m'a surpris, c'est que c'était bien, c'était une sorte de contrainte oulipienne, je dirais, qui a fait que je sois obligé à dire les choses d'une manière très directe et d'être beaucoup plus clair avec moi-même, vis-à-vis de moi-même, par rapport à ce que je voulais dire, ce qu'il fallait que je dise et comment j'allais le dire. Et donc, cette contrainte, cette limitation, pour moi, s'est révélée très productive et j'ai envie de continuer. Donc, mon prochain roman sera en français aussi. C'est un peu différent pour ma poésie, parce que là, du coup, je suis d'accord avec Paul Celan. Là, j'ai pas envie de mentir, comme il disait. Donc, oui, ce sera une sorte de diglossie, peut-être. Une diglossie entre de la poésie en hébreu, de la prose en français et de l'existence quotidienne en allemand, à Berlin. Oui, donc une triglossie déjà. Et je pense que c'est très juif tout ça.
Et c'était le 44e épisode de Litteramour dédié au poète et romancier Dori Manor qui vient de publier son premier roman en français. Le Gorille est un livre soigneusement composé, maîtrisant les sauts dans le temps, mêlant des micro-histoires, la quête de soi et de sa propre voix avec des réflexions sur l'histoire du XXe siècle qui a contraint sa famille à migrer. Cette autofiction est d'une franchise captivante et d'une ironie subtile, bref, un début merveilleux. En attendant de vous retrouver au prochain épisode, je vous souhaite de bonnes lectures, bien à vous, et à bientôt.